Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Merci d'écouter la radio Inzamba Gatseka Kawe. C'est l'heure du journal dont voici d'abord les principales articulations. Le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye est en visite officielle de 3 jours depuis ce vendredi en République unie de Tanzanie. On fera le point en début de ce journal. L'insécurité fait toujours parler d'elle dans différents coins du pays. Un corps sans vie a été découvert ce matin à Mugomele dans la commune Provence et Rumonge. L'identité du présumé criminel n'est pas encore connue. Enfin, le chef-lieu de la province Muyinga est plongé dans l'eau noire depuis dimanche dernier. Son manque d'électricité a provoqué des lamentations dans les ménages. Voilà pour le sommaire de ce journal. À la présentation, Alice Akimana. Soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Je vous le disais en titre, le président Evariste Ndayishimiye est en Tanzanie pour une visite d'État de 3 jours. Demain samedi, le président burundais se rendra à Zanzibar et il reviendra à Dar es Salaam pour clôturer sa visite dimanche. Les relations entre ces deux pays sur la question des réfugiés burundais vivant en Tanzanie ne sont pas appréciées par ces derniers. Les détails avec Benny Axelakan.
Le président Ndayishimiye a commencé sa visite dans la capitale politique de Doma. Il a été accueilli par le ministre des Relations extérieures, Liberat Mulamula. Le président Ndayishimiye a été par après accueilli par son homologue Sam Yasuluhu Hassan. Ce samedi, il se rendra à Zanzibar où il sera reçu par le président de cette île, Hussein Ali Mwinyi. Il reviendra par la suite à Dar es Salaam où il s'entretiendra avec Samia sur plusieurs dossiers de coopération. Dans cette ville économique, le président Ndayishimiye se rendra à Nala, ville industrielle. Il posera la première pierre à une construction d'une usine fertilisant organominéraux FOMI dont le siège se trouve à Bujumbura. C'est pour la deuxième fois que le numéro 1 burundais se rend en Tanzanie. C'est d'ailleurs le premier pays qu'il a visité après son élection à la tête de l'État burundais. Il a qualifié la Tanzanie de parent du Burundi et a indiqué qu'il considère l'ancien président Magufuli comme son papa. Les relations entre le Burundi et la Tanzanie datent de très longtemps, à l'époque coloniale. À cette époque, Julius Nyerere et Louis Rwagasore se soutenaient dans ce combat. Ces relations existent toujours entre CCM, SNDD, FDD. La plupart des dirigeants du Burundi sont issus du CNDD-FDD, soutenu depuis la rébellion par la Tanzanie, dirigée à l'époque par le président Benjamin Mkapa. C'est également grâce à ces bonnes relations que la Tanzanie, dirigée par Jakaya Mrisho Kikwete, a facilité le retour au Burundi de l'ancien président Nkurunziza lors du putsch de 2015. Ces bonnes relations entre les deux pays ont eu des retombées négatives sur les réfugiés burundais vivant dans ce pays traités à tort d'opposants. Ils sont jusqu'à présent maltraités et contraints de rentrer.
Parlons insécurité à présent. Un corps sans vie a été découvert le matin de ce vendredi sur la colline Mugomele en commune et province de Rumonge. Selon des informations recueillies sur place, le défunt avait passé la soirée avec ses amis dans un bistrot non loin de l'endroit où le cadavre a été découvert. Les détails avec Parfait Mundasigan.
Selon des informations recueillies sur place à Rumonge, ceux qui l'ont aperçu en dernier lieu indique l'avoir vu dans la soirée de ce jeudi dans une buvette située sur la route Rumonge-Wuyengero. Les causes de sa mort restent non élucidées. Certains soupçonnent les jeunes Imbonerakure qui patrouillaient la nuit qui l'auraient égorgé après avoir pris tout ce qu'il avait sur lui. Certains jeunes de la localité ont été arrêtés pour des raisons d'enquête.
On le connaissait, c'était un habitant d'ici à Mugomele. C'était un ouvrier qui travaillait des fois comme aide-maçon ou alors comme travailleur dans les champs. Hier, il prenait son verre normalement avec des amis. C'est ainsi que ce matin, nous avons découvert son cadavre à côté de ce bistrot dépouillé de tout ce qu'il portait sur lui. Il y a deux jeunes Imbonerakure qui ont été arrêtés pour des raisons d'enquête.
Les habitants demandent que des enquêtes soient menées pour que des coupables soient punis conformément à la loi.
Et puis un jeune homme de la commune Kiganda en province de Mulanvia est en garde à vue dans la même commune. Il a été arrêté mardi de la semaine en cours. Il est accusé de collaborer avec les groupes armés. Sa famille est dit qu'il est poursuivi sur de fausses allégations et demande sa libération inconditionnelle. Plus de détails avec Diane Mouziza.
Ce jeune homme était arrêté au domicile de ses parents à Kiganda, mardi de la semaine en cours. C'est le nommé Christophe Ndayiragije. Il venait de passer quelques mois étant libre depuis sa sortie de la prison par grâce présidentielle. Il avait été arrêté à Bujumbura en 2015, accusé d'avoir pris part aux manifestations contre le troisième mandat du feu président Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, il est accusé de collaborer avec les groupes armés, des accusations que les proches de sa famille rejettent en bloc. Ils attribuent son arrestation au conflit foncier. Des personnes avec qui il partage seul le pain de terre seraient derrière des montages grossiers contre sa personne. Les proches de sa famille avaient déjà alerté les administratifs de Muramvya sur cette persécution.
Il a été arrêté mardi de la semaine en cours vers 15h. Il y avait le chef de poste de la police au niveau local avec le responsable du CLTTD, le responsable des Imbonerakure et des policiers. Nous demandons au président de la République de venir au secours à cette famille. Ils avaient déjà alerté toutes les instances sur cette menace. L'administrateur était au courant, le commissaire mêmement, ainsi que le gouverneur de province. C'est vraiment incompréhensible qu'un incident pareil se produise alors que toutes les autorités étaient averties.
Celui qui partage avec la famille Christophe un lopin de terre, c'est l'épouse du responsable du service national de renseignement dans la commune Kiganda, le prénommé Ladislas. La même autorité aurait donné le nom et la photo de Christophe comme un fauteur de troubles dans une réunion de sécurité qui a eu lieu à Mwaro.
Il y a un de ses proches qui est l'épouse du responsable du service national de renseignement à Kiganda, le prénommé Ladislas, dans une réunion de sécurité à Mwaro, il aurait donné le nom de Christophe comme l'un des fauteurs de troubles. Il a dit qu'il était parmi ceux qui ont fait l'attaque de Bugarama, alors qu'il était encore en prison. Il n'a jamais participé dans ce genre d'attaque. C'est purement et simplement à cause de ce conflit.
Contacté par la rédaction de Radio Inzambara Tekakawe, le prénommé Ladislas nie toute implication dans l'arrestation de cette personne et a juré de porter plainte contre ceux qui disent qu'il serait derrière son arrestation. Quant à Diomède Nzambimana, gouverneur de province de Muramvya, son téléphone sonnait et personne n'a pu décrocher pour répondre à notre appel.
Merci Diane Nguzza pour ces précisions. Une femme employée de l'hôpital de Gitega et membre du parti CNL est en garde à vue dans les cachots du service national de renseignement à Gitega depuis plus de 20 jours. Des sources à Gitega disent que la femme aurait été torturée pour lui extorquer des aveux. Les proches de sa famille craignent pour sa sécurité et demandent sa libération. Plus de détails avec Raoul Mienguruzzi.
Cet employé de l'hôpital régional de Gitega qui a dépassé les délais de garde à vue prévus par le code de procédure pénale est la nommée Marie Chantal Nijimbere. Elle a été arrêtée manu militari, embarquée dans un véhicule du Service national des renseignements le 30 septembre 2021, alors qu'elle était à son service comme d'habitude. Des sources de la radio Inzamba Agathe Kakawe, parmi les policiers du commissariat de Gitega, font savoir qu'elle aurait été torturée par les agents du Service national des renseignements pour la forcer d'accepter d'avoir donné des informations sur la mauvaise gestion de l'hôpital à la radio Inzamba Agathe Kakawe. Les mêmes sources font savoir qu'elle est en garde à vue dans les cachots de police du centre-ville de Gitega, dans les locaux conçus par les Allemands dits à Boman. Les mêmes sources indiquaient que la torture qu'elle aurait subie serait l'une des causes qui aurait empêché les tortionnaires de présenter la prévenue devant le parquet. Ils seraient en attente de la cicatrisation des traces de torture pour pouvoir la présenter devant les magistrats, continuent les mêmes sources. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a tenté de joindre par téléphone au PC1 Zebron Fulanzima, responsable du service national des renseignements à Gitega, mais sans succès.
La CAT Burundi constate qu'il s'agit là d'une détention arbitraire et dit que la garde à vue au cachot de la police judiciaire ne peut pas dépasser 7 jours, sauf s'il s'agit d'une dérogation spéciale décidée par le ministère public. Jean-Claude Nivoulumoussi est chargé du département juridique à la CAT Burundi.
pour le cas de la dame, vous constatez très bien qu'il s'agit d'une détention arbitraire, étant donné qu'elle est détenue à peu près un mois. J'essaie de rappeler que les dispositions du code de procédure pénale sont d'ordre public, doivent être appliquées à la lettre et personne n'est autorisé à passer outre. Mais le comportement du service national de renseignement ne surprend personne. Le service national de renseignement s'est toujours comporté de la sorte. Mais ce qui est malheureux, c'est que les juridictions n'arrivent pas à relever ces irrégularités et donner suite qu'elles méritent, peut-être par manque d'indépendance. Vous savez que le service national de renseignement est une police qui relève de la présidence de la République. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous demandons au magistrat suprême, chef de l'État, de faire respecter la loi dans tout et partout, et surtout en commençant par ses services, alors qu'il a le service national de renseignement, qui relève de sa compétence directe. Nous, à la CAT Burundi, nous constatons qu'il s'agit pur et simple d'une détention arbitraire. Ah, normalement, la garde à vue de police judiciaire, telle qu'est définie à l'article 33 du code de procédure pénale, ne peut pas dépasser 7 jours, sauf s'il y a prorogation décidée par l'officier du ministère public. Mais celle-ci aussi a un délai maximal de 14 jours.
Une nouvelle association de défense des droits humains, Ensemble, pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, va voir le jour prochainement. Germain Rukuki, promoteur de cette organisation, l'a annoncé ce vendredi devant les membres des différentes organisations nationales et internationales de défense des droits humains. À travers son association, Germain Rukuki compte partager des témoignages constructifs sur la résilience des défenseurs des droits humains en danger. Suivez-le.
J'ai été victime d'une longue détention arbitraire de 4 ans. Depuis mon arrestation à Bujumbura, un défenseur des droits humains ne devrait pas mériter un tel sort alors qu'il est au service des victimes des violations de leurs droits et libertés reconnues par les instruments nationaux, régionaux et internationaux adoptés et ratifiés par le pays. Malgré les souffrances endurées, j'encourage tous les défenseurs des droits de l'homme en difficulté qui reçoivent mon message à ne pas se décourager malgré les actes de criminalisation dont ils font l'objet. Au contraire, ils devraient redoubler d'ardeur dans leur plaidoyer pour un monde où les droits et libertés sont respectés à la pleine satisfaction des générations actuelles et futures. Je ne saurais terminer sans vous assurer que l'injustice subie durant les 4 dernières années ne va aucunement m'affecter, car l'expérience tirée de la prison m'a plutôt poussé à vaincre la peur et à briser le silence, en fait de contribuer auprès des autres défenseurs des droits humains à bâtir un monde meilleur pour le présent et l'avenir. Désormais, mes actions seront principalement canalisées à travers la nouvelle association sans but lucratif, Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, dont je suis le promoteur, où je compte notamment partager des témoignages constructifs sur la résilience des défenseurs des droits humains en danger.
Et pour rappel, il y a plus de 3 mois, Germain Rukuki a été libéré de la prison où il croupissait pendant près de 5 ans. Ce défenseur des droits de l'homme était poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et collaboré avec les rebelles.
Inzamba.
Grogne des ménages du chef-lieu de la province Muyinga contre la régie de production et de la distribution de l'eau et d'électricité, régie des eaux. C'est à la suite du manque d'éclairage dans les ménages depuis dimanche dernier. Les conséquences négatives sont déjà relevées par les familles victimes. Les détails avec Franck Cazé.
L'absence du courant a commencé à se déclarer sur la colline Kivogoye avant de s'étendre sur d'autres zones de la ville. À l'origine de cette coupure de courant, un transformateur de la régie des eaux tombé en panne, transformateur qui alimentait une partie du chef-lieu, comme l'affirment des sources sur place. Parmi les conséquences relevées par ces familles, qui disent être victimes de cette situation, figure la problématique de révision des leçons chez les enfants et les difficultés de conservation des produits périssables. Par ailleurs, rares sont ceux qui portent encore des habits repassés. Les familles qui se sont confiées à la radio Nzamba Agathe Kakawe demandent à la régie des eaux de réparer rapidement la panne pour soulager leurs souffrances. La rédaction de la radio Inzamba a tenté de joindre par téléphone le chargé de l'électricité à la régie des eaux en province Muyinga, mais en vain.
Grogne également chez les commerçants détaillants des produits de la Braroudi à Kavovo, en commune Moukike de la province Bujumbura. Ils disent qu'ils doivent payer 10 000 francs burundais pour être servis quand ils vont s'approvisionner. Cet argent sert pour les contributions forcées versées au compte du parti CNDD-FDD. Les détails avec Jacob Siboman.
Ces commerçants font savoir que leurs lamentations sont fondées sur le fait que quand ils vont s'approvisionner, ils ne sont pas servis. Pour être au service, ils doivent exhiber aux distributeurs des produits de la Braroudi connus sous le nom de Nikura un document qui justifie qu'ils ont payé 10 000 francs burundais. Chacun doit payer cette somme qu'il verse sur les comptes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, comme contribution. Un de ces commerçants dont la voix a été modifiée pour sa sécurité raconte.
Un commerçant qui s'appelle Nikura les reçoit et les dépose. Les détaillants qui s'approvisionnent chez lui doivent payer 10 000 francs burundais chacun, quel que soit le nombre d'occasions qu'on achète. Il leur dit que cette somme d'argent a été fixée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il y paie cet argent à contre-cœur, en grognant. Et maintenant, l'information circule partout.
Il précise aussi que les 10 000 francs ne sont pas inclus dans le prix fixé par la Braroudi pour les commerçants qui s'approvisionnent au dépôt.
Ces 10 000 francs s'ajoutent au prix normal fixé par la Braroudi pour les commerçants détaillants qui s'approvisionnent au dépôt. C'est un surplus. L'argent n'est pas inclus dans le prix.
La radio Inzamba a tenté de joindre le téléphone de Frédéric, l'administrateur de la commune Moukike, pour qu'il s'exprime là-dessus, mais sans succès.
Et des conséquences de la pénurie du carburant sont rapportées dans la province de Rumonge. Des sources sur place dénoncent la hausse du prix du transport en commun. Le ticket de transport de Rumonge à Bouri est passé de 3300 francs bou à 4000 francs burundais. Ce sont des grognes aussi bien chez les transporteurs que du côté des pêcheurs dans le lac Tanganyika. Ils travaillent à perte selon leurs témoignages. On fait le point avec Prosper Nzissavila.
Le secteur de transport et la pêche sont les plus affectés dans la forêt de Rumonge. Ils viennent d'enregistrer des pertes énormes à la suite du manque de carburant sur les stations-service. Nous sommes obligés d'aller nous approvisionner à Bujumbura, indique le chauffeur rencontré dans les parkings de transport en commun.
Le carburant est devenu problématique ces derniers jours. On s'approvisionne à Bujumbura parce qu'ici chez nous, à Rumonge, on n'en trouve pas. Et si par chance on parvient à travailler, on doit majorer le prix du ticket de transport. Et nos clients ne sont pas bien évidemment contents pour ça, mais on n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas de notre faute. Si le gouvernement pouvait aider à trouver le carburant, on pourrait aussi en vendre au prix officiel.
Des voyageurs qui empruntent la route Rumonge-Bururi en paient déjà le prix. Le ticket de transport est passé de 3300 à 4000 francs burundais selon les usagers de cette route. Certains ont préféré momentanément arrêter leurs activités, comme cet homme qui a requis l'anonymat.
Nous devrions aller à Bururi, mais nous avons constaté que les choses ont changé. Avant, le ticket était de 3500 francs, mais aujourd'hui, c'est 5 voire 6000. Il faut que la pénurie du carburant soit résolue et que les gens puissent voyager à des prix abordables. S'il n'y a pas d'importation de ces produits, c'est normal que les prix grimpent.
La gestion du carburant devient casse-tête dans la province de Rumonge. Des pompistes dans certaines stations-service évoquent une spéculation sur le carburant. Le peu qui est disponible dans leur stock n'est pas distribué. Des voyageurs, chauffeurs et pêcheurs demandent au gouvernement burundais de trouver une solution à cette pénurie. Dans un communiqué du ministère en charge du carburant, le ministre Ibrahim Twizeye met tout simplement en garde les cas de spéculation en affirmant que la situation sera bientôt réglée.
Inzamba.
Le régime du CNDD-FDD a déjà adopté un comportement montrant que les crises qu'a connues le Burundi ont visé plus les Hutus que les Tutsis. Cela ressort d'une analyse du Forum pour la conscience et le développement. C'est au moment où le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobuca, avait récemment interdit aux parents des enfants brûlés vifs au lycée Kibubu de commémorer ce jeudi le triste anniversaire comme ils veulent, avançant des raisons du Covid-19. Pacifique Nazoué, président du FOCODE, explique que c'est une faute lourde commises par le CNDD-FDD, car les crises qu'a connues le pays ont frappé toutes les ethnies. Pour lui, ce pouvoir tend à détruire l'unité des Barundis en faisant les yeux doux à la communauté Hutu. Suivez-le.
Ici, on s'interroge, mais pourquoi le ministre Indira Kobucha applique les restrictions liées au coronavirus à cette commémore le massacre d'Okivu, mais n'applique pas les mêmes restrictions à ceux qui commémorent les autres événements? Et ici, je rappelle que l'année dernière, les autorités burundaises avaient tout simplement interdit la commémoration du massacre d'Okivu. Alors, nous avons des craintes que ces restrictions participe d'une logique extrêmement dangereuse qu'on observe depuis 2015. Cette logique consiste à minimiser tous les crimes commis contre la communauté Tutsi, tandis qu'il donne de l'importance aux crimes commis contre la communauté Hutu. Ceci est extrêmement dangereux. C'est une approche qui va continuer à creuser les divisions entre les communautés ethniques au Burundi et c'est une approche qui va abîmer le processus de réconciliation nationale. Je rappelle ici que toutes les tragédies de notre histoire ont frappé toutes les communautés ethniques au Burundi. Malheureusement, cette logique est également impliquée dans le travail de la Commission Vérité et Réconciliation qui depuis 6 ans ne s'intéresse qu'au massacre de 1972 et là encore qu'aux tueries qui ont visé la communauté Hutu. Alors que même en 72, toutes les communautés ethniques ont été frappées par la crise. Cette approche est en contradiction avec l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et je dois rappeler ici que cette approche qui est imprimée depuis 2015 est justifiée par la colère du pouvoir du CNDD-FDD lorsque ce pouvoir a constaté que toutes les communautés ethniques étaient rassemblées dans la contestation du troisième mandat du président Nkurunziza en 2015. Et depuis, ce pouvoir s'emploie à détruire cette unité entre les communautés ethniques au Burundi et veut se porter comme un avocat de la communauté Hutu. Mais je rappelle que depuis 2005, que le CNDD-FDD est au pouvoir, a déjà massacré, a déjà fait disparaître des milliers de Hutus. Donc c'est pas un pouvoir qui s'intéresse réellement à la sécurité, au bien-être des uns ou des autres ou d'une communauté ethnique. C'est un pouvoir qui ne fait que tuer depuis 16 ans.
Et parlons éducation pour boucler ce journal. La Maison Shalom a lancé mercredi de cette semaine des travaux de construction d'une école maternelle et primaire dans la ville de Kigali au Rwanda. Un projet de la Maison Shalom en partenariat avec le Royaume du Luxembourg. Marguerite Barangnitse, fondatrice de la Maison Shalom, fait savoir que cette école sera un centre d'enseignement de la paix dans la région des Grands Lacs.
J'ai travaillé pendant plus de 22 ans à vouloir recréer une nouvelle génération qui pourra casser ce cycle de violence. Je vais créer cette école. Et comme la Maison Shalom s'est toujours occupée des enfants de la région des Grands Lacs, je vais oser poser ce geste. Tous ceux qui m'écoutent devraient comprendre que cette région des Grands Lacs, qui est une belle région, que Dieu a bénie, a besoin de la paix durable. Je voudrais alors lancer ce défi à tout le monde, que cette fois-ci, nous puissions recréer cette nouvelle génération de la région des Grands Lacs. Et c'est possible qu'un jour, je pourrai chanter comme Michael Jackson, Heal the World, guérir le monde. Et nous pouvons le guérir parce que nous avons assez de capacités pour pouvoir empêcher que la haine morbide nous attaque.
Et concernant les poursuites lancées contre elle par le pouvoir de Bujumbura, Marguerite Barangnitse indiquait que la persécution du gouvernement burundais ne peut pas venir à bout des œuvres humanitaires de la Maison Shalom. Suivez-la encore une fois.
Et si vous voulez que je vous lance en tant que chrétienne, en tant que maman, je vais leur dire comme Jésus a dit à Hérode, les envoyés d'Hérode, allez dire à ce renard que demain, et après-demain, je ferai des miracles. Quand mon heure arrivera, je partirai la tête haute, sachant que j'ai servi le bon Dieu. Comment je peux me décourager? C'est depuis 93 qu'on m'a attaqué. Et mais depuis 93, des miracles se sont opérés. Et je n'aurai pas peur, parce que je suis à l'œuvre de Dieu qui m'a donné une mission sublime. Je ne veux pas les changer. Quelle mère au monde peut abandonner ses enfants et que moi j'aille au palais du Luxembourg, m'asseoir, qu'on me dise « Madame, Madame est servie ». Non, je suivrai, je mourrai sur le champ de bataille. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ils peuvent me calomnier. Je ne sais pas pourquoi une petite femme comme moi, je peux leur faire peur. Je me suis levée il y a 41 ans pour donner la chance à chaque enfant, à tout enfant, ses droits d'étudier, d'être soigné, d'être câliné. Je le ferai.
Et voilà, c'est par la voix de Marguerite Balangitse, représentante de la Maison Shalom, que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Inzamba Gatera Kawe. Au revoir et à la prochaine.